très amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. A publié en 1960 un ouvrage préfacé par Frank Deno, consacré au jazzman qu'il aimait. Ce livre est intitulé « Jazzman d'aujourd'hui » et c'est publié chez Buchet-Chastel. Il n'a d'ailleurs jamais été réédité, bien qu'épuisé depuis très longtemps. Et c'est Max Harrison qui a écrit le long chapitre consacré à Jerry Mulligan. Jerry Mulligan est né à New York en 1927 et a passé son enfance à Philadelphie. Sa première expérience professionnelle a consisté à faire des arrangements pour l'orchestre de Johnny Warrington à la WCAU, la station de radio locale. Bientôt, Mulligan fit aussi des arrangements pour un autre orchestre de studio, sous la direction de Elliot Lawrence, qui faisait à peu près le même boulot d'ailleurs. C'est en grande partie grâce au travail de Mulligan que Lawrence a commencé à recevoir des offres de contrat en dehors de la station radio. Au début de 1946, il reçut une offre particulièrement alléchante. L'orchestre en bloc devait quitter la WCAU pour aller jouer à l'hôtel Stadler à New York. Vinrent ensuite des enregistrements pour Columbia et Mulligan commença à acquérir une certaine réputation comme arrangeur. D'autres orchestres, peu nombreux il est vrai, jouaient ses arrangements. En janvier 1947, Jane Krupa enregistra son disque « Jockey Jump ». L'enregistrement de Krupa atteignit un public plus large que celui de Lawrence et ce morceau, l'une des premières compositions originales de Mulligan, a été pendant quelque temps le thème favori des jeunes musiciens. Quelques années après, en 1955, Lawrence, qui au cours des années précédentes avait été surtout engagé par la télévision commerciale et la radio et n'avait dirigé que par intermittence un ensemble de jazz, enregistra pour les disques Fantasy 12 pièces originales de Mulligan. Aujourd'hui, en 1960, donc, je le précise, l'œuvre de Mulligan, interprétée par un groupe d'éminents musiciens que dirige un chef plus expérimenté, apparaît beaucoup plus en valeur qu'avec le vieil orchestre de Lawrence. Et pourtant, ces morceaux montrent avec beaucoup de clarté quel joli brin de talent il avait alors pour l'arrangement. Et il venait d'avoir seulement 20 ans. Il est évident aussi que dès le début, il a été conscient de la nécessité du swing et les meilleurs de ses premiers morceaux simples et directs, tels que Rocker et Happy Hooligan, sont joliment calculés pour ça. Bye Bye Blackbird et Swinging Door ont une force de choc considérable et montrent avec quelle vigueur pouvait écrire le jeune musicien. Le dernier morceau paraphrase intelligemment la mélodie et fait preuve d'un jeu adroit dans la détermination des choruses d'ouverture et de finale. Si l'on pense au développement ultérieur de son œuvre, il est intéressant de noter que même à l'aurore de sa carrière, Mulligan a souci d'intégrer chaque pièce et ne se satisfait point d'une simple kyrielle de solo et d'ensemble. Ainsi, dans Mr. President, Swinging Door et Happy Hooligan, les solos sont accompagnés d'un arrière-fond orchestré, parfaitement élaboré, qui contribue à accroître la gradation des morceaux. Il est évidemment intéressant de noter que les arrangements de classiques du jazz, tels But Not For Me ou My Silent Love, sont manifestement moins convaincants que ceux des propres compositions de Mulligan et qu'il réussissait davantage dans les tempos rapides que dans les tempos lents. En 1948, Mulligan s'associe avec l'orchestre Claude Tornil. Quoique ce fût manifestement là un society band, ce groupe avait soulevé quelque intérêt parmi les musiciens. Il faisait dans ses enregistrements un usage peu banal de tonalités pastel et de corps, de sax baryton et d'un tuba. La plupart de ses arrangements les plus caractéristiques étaient l'œuvre de Jill Evans. Mulligan se joignit à l'orchestre et écrivit aussi pour lui. Il ne peut y avoir aucun doute là-dessus, ce fut pour lui une expérience bénéfique que de travailler ainsi dans un groupe aussi peu conventionnel que celui-là. En effet, plus que partout ailleurs, les arrangeurs y étaient libres d'expérimenter. En parlant de cette époque, Jill Evans a dit « Nous étions musicalement très attirés les uns vers les autres. Jerry, John Carisi, George Russell et moi. La manière dont nous nous influencions les uns les autres n'avait pas beaucoup d'importance. Je pense que nous avons conservé notre individualité du seul fait de nous sentir les uns et les autres engagés dans la même aventure musicale, plutôt que d'avoir une plateforme commune ou de travailler seul. » Malgré cela, Mulligan a dû être influencé par ses compagnons dans une large mesure. Et c'est sans doute lorsqu'il était avec Thornhill qu'il a commencé à entrevoir le chemin personnel qu'il devait suivre dorénavant. Thank you. C'est aujourd'hui évident que l'orchestre Tornil, par sa sonorité et sa contexture, a eu une influence fondamentale sur la conception cool du jazz en général et sur l'orchestre Miles Davis de 1948 en particulier. On discute assez longuement l'importance de ce groupe dans le chapitre de ce livre qui est consacré à Miles Davis. Qu'il nous suffise donc de dire ici que le trompette subissait l'attraction de Evans et de Mulligan, et pour citer ce dernier une fois de plus, décida qu'il voulait jouer son langage propre avec ce genre de sonorité. Lorsque l'ensemble Davis joua au Royal Roost en septembre 1948, Mulligan abandonna Tornil et elle a joué avec l'orchestre. Ce fut le premier mouvement décisif de sa carrière et sa première identification ouverte au jazz d'avant-garde. Là, avec Evans et Carisi, il a largement contribué au répertoire. Leur collaboration dans l'orchestre de Tornil les aida indubitablement à parachever une approche unifiée dont les résultats furent la création d'un nouveau style d'ensemble. Style que n'a jamais retrouvé complètement aucun autre groupe, malgré son influence ultérieure sur le jazz cool. La faillite commerciale de l'orchestre était néanmoins inévitable. Et nous avons de la veine que Davis ait pu s'assurer 3 séances d'enregistrement chez Capitole. La première eut lieu au mois de janvier suivant. Au cours de celle-ci, on enregistra la composition de Mulligan, Jeru, et son arrangement de Godchild de George Wellington. Nous avons vu que les premières œuvres pour grand orchestre de Jerry Mulligan témoignaient d'une compétence remarquable, mais ces deux enregistrements marquent une conception plus avancée et un grand progrès de la technique. Le mélange du style cool, de l'interprétation détendue et d'une instrumentation inhabituelle produisait non seulement un nouveau son et une nouvelle structure des textures, mais aussi un climat musical original. Ceci est remarquablement illustré par l'œuvre de Jill Evans. Mais Mulligan sut également utiliser tous les nouveaux avantages et toutes les possibilités que lui offrait le groupe. Ce qui lui est commun avec les autres, c'est une sonorité voilée, une tonalité pastel qui résulte en grande partie de la richesse des langages harmoniques utilisés là et de la formation des accords par les instruments avant. Quoiqu'il n'hésite pas à exploiter le groupe pour des variations tonales, il n'oublie jamais la nécessité du swing. Jeru et Godchild contiennent également des innovations remarquables par rapport à la structure conventionnelle du chorus à 32 mesures. Le dernier morceau contenant plusieurs mesures en 3-4, mais ces exceptions sont là pour souligner la prédominance du 4-4. L'effet d'ensemble de ces facteurs est un complexe de subtilité, de détours et de sous-entendus. Au cours de cette émission, nous avons entendu Walking Shoes, Shady Side et enfin In a Mellow Tone. Marie-France Guimaraud vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré par Pierre Écart et réalisé par Émilie Glory dans les studios d'Eurocast de Radio Grand Ciel avec les recherches discographiques d'Émilie Glory.